Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile. Trémolo, bonjour.
Salut.
Quel plaisir de te retrouver.
C'est partagé.
De qui, de quoi nous parles-tu ?
Alors écoute, je suis venu avec un petit texte qui n'est pas vraiment un livre, mais qui est un petit texte, voilà, de Michel Léris, qui s'appelle « Le sacré dans la vie quotidienne ». Et c'est un texte qui date des années 30, 1938. Alors juste pour faire un petit rappel sur Michel Léris, il commence à écrire dans les années 30 et son premier texte est un récit de voyage en Afrique, il s'appelle L'Afrique fantôme. Et ensuite il publie des livres, un peu de poésie, un roman qui s'appelle Aurora, mais ce qui l'a vraiment intéressé dans la plus grosse partie de son œuvre, c'est d'écrire sur lui-même à travers une autobiographie particulière. Ça a commencé avec L'âge d'homme, un premier livre fin des années 30, et précédé d'une postface qui s'appelle De la littérature considérée comme une tauromachie. Et voilà, ça donne un peu l'idée qu'il a de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose où il y a une prise de risque, où il y a une façon de parler de soi sans prendre de précautions et en essayant d'être le plus honnête possible. Alors s'en suivront trois tomes, La règle du jeu, avec d'abord Bifur, Fourbi et Fibril. Donc moi, le petit texte que j'ai choisi, c'est un texte qui est à part, à côté de tout ça, mais qui en même temps a des liens avec cette œuvre. Et ça s'appelle Le sacré dans la vie quotidienne. Il essaye de réfléchir à ce que ça veut dire pour lui, le sacré, lui qui n'est pas croyant et qui pourtant reconnaît quelque chose dans ce terme de sacré.
Dis-moi, ça s'annonce bien.
Slide of hand.
Qu'est-ce pour moi que le sacré ? Plus exactement, en quoi consiste mon sacré ? Quels sont les objets, les lieux, les circonstances qui éveillent en moi ce mélange de crainte et d'attachement ? Cette attitude ambiguë que détermine l'approche d'une chose à la fois attirante et dangereuse, prestigieuse et rejetée. Cette mixture de respect, de désir et de terreur qui peut passer pour le signe psychologique du sacré. Il ne s'agit pas ici de définir mon échelle de valeurs, dont ce qu'il y a pour moi de plus grave et de plus sacré, au sens commun du mot, occuperait le sommet. Il s'agit plutôt de chercher, à travers quelques faits très humbles, empruntés à la vie quotidienne et situés en dehors de ce qui constitue aujourd'hui le sacré officiel, religion, patrie, morale, de déceler, au moyen de quelques menus faits, quels sont les traits qui pourraient permettre de caractériser qualitativement mon sacré et aider à fixer la limite à partir de laquelle je sais que je ne me meus plus sur le plan des choses ordinaires, futiles ou sérieuses, agréables ou douloureuses, mais que je suis entré dans un monde radicalement distinct, aussi différent du monde profane que le feu l'est de l'eau. Il paraît évident que tout ce qui nous fascina durant l'enfance et nous a laissé le souvenir d'un pareil trouble, doit être, en première ligne, interrogé. Car de tous les matériaux dont nous pouvons disposer, ces matériaux extraits des brumes d'enfance ont quelque chance de représenter les moins sophistiqués. Me reportant mentalement à mon enfance, je retrouve d'abord quelques idoles, quelques temples, et d'une manière plus générale, quelques endroits sacrés. En premier lieu, quelques objets appartenant à mon père, symbole de sa puissance et de son autorité. Son chapeau haute forme, à bord plat, qu'il accrochait le soir au porte-manteau, lorsqu'il rentrait de son bureau. Son revolver, un Smith & Wesson, à barillet, dangereux, comme toutes les armes à feu, et d'autant plus attirant qu'il était de métal nickelé. Instrument qu'il rangeait ordinairement dans le tiroir d'un secrétaire ou dans sa table de nuit et qui était l'attribut par excellence de celui à qui il incombait, entre autres tâches, de soutenir la maison et de la protéger des voleurs. Son porte-or, dans lequel il mettait des louis, sorte de coffre-fort bijoux qui fut pendant longtemps l'apanage exclusif du nourrisseur et qui nous semblait, à mes frères et moi, jusqu'à ce que nous en eussions reçu un pareil en cadeau de première communion, la marque de l'âge viril. Thank you.
been so near. You taste the blood.
Les écrits ont été des poèmes et vous n'avez jamais cessé de vouloir être un poète. Et d'autre part, sous l'influence d'André Masson notamment, il vous a paru peu à peu indispensable de prendre position sur les événements de notre temps. Maintenant, nous sommes en 1934, année où fut publiée L'Afrique fantôme. De 1931 à 1933, en effet, vous aviez participé à la mission ethnographique Dakar-Djibouti. C'était votre premier voyage en Afrique noire, et c'est à la suite de cette expérience que vous êtes devenu ethnologue de profession. Mais pour écrire L'Afrique fantôme, vous aviez pris comme parti, au départ, de faire un journal total, n'est-ce pas ?
Et c'était pour ça que je faisais partie de cette mission. Et c'était mon camarade Marcel Griol, l'ethnographe très célèbre qui en était alors à peu près à ses débuts, qui m'avait proposé de participer à une mission qu'il comptait faire en Afrique et qui m'avait proposé, comme je n'étais pas du tout ethnographe de formation, il m'avait proposé de tenir le journal de cette mission, ce que j'avais accepté. Mais étant entendu, ça c'était dans ces conditions-là que ça m'intéressait, et je ne le lui avais pas caché à lui, étant entendu que ce journal serait un journal total. Je veux dire un journal à la fois extérieur, ce journal de voyage, et journal intime.
À quel besoin ça répondait ?
Très précisément à ce besoin de totalité qui a toujours été la visée surréaliste et qui est restée la mienne.
Et alors c'est là que se trouve affirmée pour la première fois la pénétration de vos différentes activités, celle de l'ethnographe que vous êtes devenu, et puis cette étude de soi qui aboutit à une œuvre.
Je vous dis que ça se situe encore comme ouvrage littéraire, mais c'était dans mon intention, c'était tout de même, malgré tout, l'ouverture sur autre chose. Je ne dirais pas du tout que j'avais à ce moment-là l'intention de devenir un ethnographe professionnel, mais je voulais absolument changer d'atmosphère, voir d'autres choses, voir d'autres gens, prendre contact avec une autre civilisation que la civilisation occidentale, que, comme tous les surréalistes, je peux presque dire que je vomissais.
Oui, c'est d'ailleurs, je crois, ce contact avec d'autres civilisations, c'est l'existence du problème du colonialisme et le problème du tiers-monde qui vous ont amené à prendre parti en politique également.
Il n'y a aucun doute. Parmi les injustices sociales, enfin, qui sont très nombreuses et très fortes et qui peuvent révolter, celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'ont des gens mais qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque, ce mépris, enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourraient leur donner des leçons.
L'idole était la salamandre, la radieuse, ornée d'une effigie de femme qui ressemblait à un buste de la République. Là, il faut préciser que la radieuse, c'est une sorte de poêle. Vrai génie du foyer, trônant dans la salle à manger, attirante par la chaleur qu'elle répandait, l'incandescence de ses charbons, redoutable car nous savions, mes frères et moi, que si nous y touchions, nous nous brûlerions. C'était près d'elle qu'on me portait la nuit, lorsque je m'éveillais en proie aux quintes de toux nerveuses qui caractérisent le faux croup, et que j'avais le sentiment, attaqué par un mal surnaturel de la nuit, ravagé par une toux qui s'introduisait en moi comme un corps étranger, de devenir d'un coup quelqu'un de prestigieux, comme le héros d'une tragédie, entouré que j'étais par l'inquiétude et la sollicitude affectueuse de mes parents. Quant aux endroits, il y a d'abord la chambre parentale, qui ne prenait son plein sens que de nuit, quand mon père et ma mère y dormaient, la porte ouverte pour mieux veiller sur la progéniture, et que j'apercevais vaguement à la lueur de la veilleuse, le grand lit abrégé du monde nocturne des cauchemars qui traversent le sommeil et sont comme la réplique noire des pollutions. Comme autre pôle sacré de la maison, pôle gauche, tendant à l'illicite par rapport à la chambre parentale, qui était le pôle droit, celui de l'autorité établie, sanctuaire de la pendule et des portraits des grands-parents, les WC, où, tous les soirs, l'un de mes frères et moi, nous nous enfermions, par nécessité naturelle, mais aussi pour nous raconter, d'un jour à l'autre, des sortes de feuilletons à personnages, animaux, qu'alternativement nous inventions. C'était dans cet endroit que nous nous sentions le plus complices, tandis que nous fomentions des complots et que nous élaborions toute une mythologie quasi secrète, reprise chaque soir, parfois mise au net, sur des cahiers, aliment de la part la plus proprement imaginative de notre vie. Des animaux soldats, jockeys, aviateurs, civils ou militaires, lancés dans des compétitions guerrières, sportives ou dans des intrigues policières. Ténébreuses machinations politiques, avec essais de coups d'État, meurtres, enlèvements, projets de constitution devant assurer un gouvernement idéal, intrigues sentimentales d'une pauvreté absolue et qui se résumaient le plus souvent en un mariage heureux, suivi de la mise au monde de quelques enfants, mais sans que fût nécessairement accepté l'épisode final du veuvage. Invention de machines de guerre, de couloirs souterrains, de trappes et de pièges, parfois constitués par une simple fosse masquée de feuillage, aux parois pourvues de lames bien tranchantes et au fond hérissé de pales pour couper en morceaux et perforer celui qui y tombait. Beaucoup de combats, de luttes farouches sur les champs de bataille ou sur les hippodromes. Après chaque bataille, des statistiques détaillées avec le nombre exact des prisonniers, des blessés et des morts pour chacun des deux parties adverses, qui étaient par exemple les chats et les chiens, les premiers royalistes et les seconds républicains. Tout cela consigné dûment dans nos cahiers, sous forme de récits, de tableaux, de plans, de croquis, avec tables récapitulatives et arbres généalogiques. We'll be right back.
langue riche.
Oui, l'écriture compte beaucoup pour Lyris. La forme est, oui, essentielle.